France Culture, Avoir raison avec Bertha von Suttner, Margot Loridon.
Lorsque Tolstoï découvre le roman Bas les armes de Bertha von Suttner, il en est convaincu. Ce livre sera à la guerre ce que la case de l'oncle Tom d'Harriet Beecher Stowe a été à l'esclavage, le précurseur de son abolition. Deux conflits mondiaux plus tard, et tandis que chaque nouveau bulletin d'information nous rapporte les dernières exactions de l'armée russe en Ukraine, on aurait du mal à donner raison à cette prédiction. Mais Bas les armes reste un ouvrage majeur et la clé de voûte du combat pacifiste de son autrice. Avoir raison avec Bertha von Suttner, épisode 2, Bas les armes, best-seller contestataire. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui en duplex de Tours avec Karl Ziger, professeur de littérature comparée à l'Université de Lille. Bonjour Karl Ziger.
Bonjour Margot Léridon.
Et pour évoquer les traductions de l'œuvre, nous serons rejoints en fin d'émission par l'historien du pacifisme, Peter van den Dungen.
Dans mon prochain livre, je veux parler de la guerre, du point de vue d'une femme. Je ne parlerai pas de la mêlée habituelle, ni de la soldatesque héroïque. Je veux décrire la souffrance humaine. Un champ de bataille après les tueries. Quand les membres coupés, un jeune garçon agonise, hurlant sa douleur. Je veux savoir si pendant son agonie, il éprouve toujours de la joie à mourir pour sa patrie.
Alors, on vient d'entendre un extrait du film autrichien de 2015, Madame Nobel, sur la vie de Bertha von Suttner. Ce prochain roman dont elle parle, ce sera donc Bas les armes. Pouvez-vous, pour commencer, nous en résumer l'histoire, Karl Ziger ?
Oui, Bas les armes, c'est sans doute le roman le plus intéressant de Bertha von Suttner. C'est l'histoire d'une vie, eine Lebensgeschichte, hein, comme dit le sous-titre, d'une certaine Martha von Althaus, comtesse Martha von Althaus, qui est un personnage fictif, donc une jeune femme de la grande noblesse, qui entre 1859 et 1871, donc pendant ces 12 années, vit tous les bonheurs, parce qu'elle a tout pour être heureuse, mais aussi tous les et surtout tous les malheurs qu'une jeune femme, mais qu'un homme ou une femme, enfin qu'un être humain en général peut vivre pendant ces 12 années quand il habite en Europe centrale. Et,
puisque pendant ces 12 années, les guerres se succèdent.
Voilà, pendant ces 12 années, les guerres se succèdent. Le roman est divisé en 6 livres, plus un épilogue, 4 livres consacrés à chacune des guerres. La guerre de 1859 qui oppose l'Autriche, l'Empire d'Autriche au royaume de Sardaigne-Piémont à propos de la Lombardie. Sardaigne-Piémont soutenu par Napoléon III. Puis 1864, la guerre qui oppose l'Autriche associée à la Prusse, pour une fois, contre le Danemark à propos de Schleswig-Holstein. Puis 1866, l'opposition, la guerre austro-prussienne qui se termine avec la grande défaite des Autrichiens à Königgrätz, Sadowa. Et finalement, 1870-71, là évidemment ça concerne la France et la guerre franco-prussienne de ce moment-là. Et donc pendant ces guerres et pendant les conséquences qu'ont ces guerres, Martha, qui au début était une jeune femme exaltée, complètement acquise aux valeurs traditionnelles, qui tombe amoureuse à 17-18 ans du premier lieutenant de hussards qui passe, si je puis dire ça comme ça, et qui va l'épouser, mais qui perd aussi justement ce jeune mari lors de la première guerre mentionnée, donc lors de la bataille de Magenta, qui précède celle de Solferino. Et donc, elle est veuve très très jeune avec un garçon, un jeune garçon qui, a priori, est destiné à devenir soldat. Seulement, elle opposera un peu plus tard le baron von Tilling, Friedrich von Tilling, qui, tout en étant militaire, a une position plutôt critique, distante, hein, par rapport à la guerre. Et avec Friedrich von Tilling, Martha von Althaus va développer déjà des réflexions sur la guerre et sur le pacifisme. Et donc s'en suivront donc ces autres guerres qu'elle vivra, pendant laquelle elle perdra pratiquement toute sa famille, en dehors d'une tante et de son mari et son fils, mais son père, ses sœurs, ses cousins, tout le monde y passe, soit au champ de bataille, soit comme son père ou ses sœurs meurent du choléra. Donc là, elle réunit vraiment tous ses malheurs sur elle. Et c'est un peu ce qu'elle raconte dans les chapitres consacrés aux quatre guerres, qui sont interrompus par deux périodes de paix, mais des périodes de paix qui permettent d'une part de parler des conséquences comme des guerres sur la vie quotidienne, et en même temps de réfléchir sur cette question de guerre, pourquoi faut-il qu'il y ait des guerres, comme disent certains, etc.
Oui, alors ce roman alterne les modes de narration, on passe du journal intime au commentaire rétrospectif, on intercale des lettres et des extraits de journaux. Est-ce que ce procédé était courant à l'époque ?
Non, sans doute pas très très courant. Ce roman était considéré en fait comme une œuvre hybride. Effectivement, comme vous dites, ce roman est basé sur le journal, ce fameux cahier rouge de la narratrice, mais il y a énormément de réflexions théoriques. Il est question de Buckle, de Darwin, qui étaient un peu les livres de chevet de Bertha von Suttner. Il est question aussi, sont évoqués Zola. Très intéressant, une lettre de Flaubert à George Sand par rapport à la guerre de 70-71. Énormément de documents, des citations, des déclarations officielles. En fait, le but, c'est de, autour de tous ces documents, de montrer l'absurdité de la guerre, mais surtout de déconstruire les propos qui sont tenus. Et en fait, si on prend les personnages, on a le côté pacifiste, à savoir Martha, son mari Tilling, Friedrich Tilling, et un médecin, le docteur Bresser. Et puis de l'autre côté, toute sa famille qui sont, pourrait-on dire, des va-t-en-guerre, ou plutôt qui considèrent que la guerre fait partie de la vie, que c'est quelque chose de naturel, que c'est quelque chose qui doit permettre d'assurer l'équilibre entre les grandes puissances, et qui disent certains partir que la guerre pourrait même apporter ou apporte des progrès techniques, civilisationnels, etc. Alors, et donc, on a constamment cette alternance entre la narration et les documents, et entre les différentes parties qui s'affrontent dans les réunions familiales, etc.
Alors, tentons de replacer ce roman dans son contexte. Au moment où elle se lance dans l'écriture, le milieu littéraire autrichien est principalement occupé par ce que l'on nomme la Jeune Vienne. De quoi s'agit-il ?
Disons, au moment où elle se lance dans l'écriture, je reviens un tout petit peu en arrière, si vous permettez, Bertha von Suttner, quand elle commence à écrire Die Waffenlieder, a déjà une œuvre littéraire, entre guillemets, assez conséquente, mais c'est une œuvre, disons, de littérature triviale, de romans presque à l'eau de rose ou de romans de gare, si je puis dire, qu'elle a écrite pendant les années qu'elle a passées dans le Caucase, en Géorgie, pour vivre, pour gagner sa vie. Donc ça, c'est de la littérature alimentaire. Mais ça lui a quand même permis d'être connu un petit peu dans le milieu littéraire, surtout par les éditeurs, les directeurs de revues, etc. Donc, quand elle commence à écrire, quand elle écrit Die Waffenlieder, elle n'est pas tout à fait une inconnue dans le milieu littéraire, mais elle ne fait pas partie des cercles les plus reconnus, si je puis dire. Bon, en 1889, la Jeune Vienne commence seulement à germer, si je puis dire. Mais effectivement, quand on pense à la littérature autrichienne de cette fin du XIXe siècle, on ne pense pas à des auteurs comme Bertha von Suttner, mais on pense à Hofmannsthal, à Schnitzler. Donc cette Jeune Vienne qui est synonyme pour les Autrichiens de modernité, hein, qui introduit la modernité de la littérature européenne, française notamment, dans le giron autrichien, si je puis dire, qui se caractérise par la description des états d'âme, l'esthétique des nerfs, etc. Hein. Et donc, évidemment, Bertha von Suttner n'est pas du tout dans cette approche-là de la littérature.
Alors, elle n'est pas du tout dans cette approche-là de la littérature. Au même moment, en Europe, on assiste ailleurs, et en particulier en France, à l'émergence du courant naturaliste. Est-ce qu'elle serait plus proche de ce courant-là? Et d'abord, est-ce que vous pouvez nous en rappeler les caractéristiques?
Alors, oui, bien sûr, hein, Bertha von Suttner serait plus proche de ce courant-là, courant qui est évidemment incarné par Émile Zola, par le roman expérimental, par l'idée effectivement de parler de toutes les classes sociales. Ça, c'est pas forcément le cas de Bertha von Suttner, hein, entre parenthèses, mais de décrire la vie dans tout ce qu'elle a de plus beau, mais aussi de plus atroce, de plus difficile. Évidemment, quand on pense au naturalisme, on pense à Germinal, on pense à l'Assommoir, etc. Bon, ça, c'est pas non plus la filière, si je puis dire, de Suttner, mais ce qui rapproche Suttner du naturalisme, c'est plusieurs éléments quand même. D'abord, elle a écrit quelques années, 2-3 années avant Die Waffenlieder, elle a écrit un
Die Waffenlieder pour les auditeurs, bas les armes.
Pardon, oui, pas les armes. Donc, quelques années avant d'écrire, mais 2-3 années avant d'écrire Bas les armes, elle a écrit un roman un peu trivial, mais qu'elle intitule Schrift chez le Roman, roman d'un écrivain. Et là, elle défend un certain nombre de positions qui seraient effectivement celles de Zola, qui rappellent le roman naturaliste, le roman expérimental. Surtout, elle publie dans une revue, dans un périodique de Munich, Die Gegenwart, de Michael Georg Konrad, dans le premier numéro en 1885, donc très peu avant Die Waffen, Bas les armes, elle publie un article justement sur la vérité dans le roman. Et donc, on voit là qu'elle a une certaine proximité, un certain intérêt pour les thèses que défend, pour la méthode surtout que défend Zola. Et par rapport à Bas les armes, elle précise bien qu'elle n'a rien inventé, qu'elle s'est énormément documentée pour écrire ce roman. Et donc, de ce point de vue-là, elle pratique effectivement un petit peu la méthode zolienne, si vous voulez, hein, de vraiment bien se documenter sur le sujet que l'auteur souhaite traiter dans son œuvre, dans son roman.
Il m'est difficile de vous faire un récit très précis. Tout cela est encore bien confus pour moi. La poudre vous monte singulièrement à la tête. Cette ivresse, cette fièvre, vous saisissent dès le départ. L'heure des adieux est pénible et vous met au cœur un sentiment de tendresse douloureuse. Mais une fois parti, lorsqu'on se retrouve entre camarades, on se dit « Nous voici maintenant en face du plus grand devoir que la vie puisse imposer à un homme, défendre sa patrie. » Pour moi, lorsque la musique joua la marche de Radetzky et que nos drapeaux déployés flottèrent au vent, je n'aurais pas voulu retourner même dans les bras de ma fiancée. Ce passage où Suttner décrit bien donc l'endoctrinement guerrier évoque la marche de Radetzky, la marche militaire viennoise qui donne son titre au grand roman de Joseph Roth écrit 40 ans après Bas les armes. La marche de Radetzky de Roth s'ouvre comme Bas les armes en 1859 avec la bataille de Solferino, mais se déroule surtout deux générations plus tard autour d'un personnage d'officier qui n'a plus la foi de ses aïeux dans l'institution militaire. Peut-on dire que Suttner anticipe les thèmes de la littérature autrichienne ultérieure qui décrira la désintégration de l'Empire et l'absurdité de la guerre de la marche de Radetzky de Roth au monde d'hier de Zweig qu'on évoquait hier justement?
Oui, tout à fait, parce que cette citation, je pense qu'elle est importante, parce que en dehors de Roth, elle nous ramène aussi à votre question sur le naturalisme, parce que je pense que un des chapitres le plus passionnant et le plus prenant du roman, c'est le livre 4 qui porte sur la guerre de 1866 et l'affrontement entre Autrichiens et Prussiens. Et Martha, donc la protagoniste, la narratrice, a réussi par un transport de médicaments et de d'aide soignante de se rendre. Évidemment, tout ça, c'est la fiction, de se rendre sur les champs de bataille, et elle décrit, et ça, c'est plus de la fiction, elle décrit vraiment ce qu'elle a vu, la manière dont les batailles se sont déroulées. Et donc, cette citation qu'on a entendue, hein, toi, je pense que peut venir de ce chapitre-là, c'est vraiment très, très impressionnant et aussi très naturaliste. Hein, la manière dont elle écrit ce qui se passe sur le champ de bataille, les blessés, les morts, les blessés qui sont parfois enterrés alors qu'ils ne sont pas encore tout à fait morts, les odeurs, le sang partout, la fatigue, toutes les privations qu'on peut vivre sur ce champ de bataille, ça c'est vraiment très très prenant. Et effectivement, ça met aussi un petit peu à douter certains, en tout cas, puisque vous posez la question par rapport à Josef Roth et les Trotta, hein, le jeune lieutenant Trotta qui lui aussi n'est pas convaincu des bienfaits de la guerre. Et là, pour revenir à cette histoire de 1866, la guerre de 1866, le baron Tilling, donc le deuxième mari de Martha Althaus, incarne vraiment toute l'absurdité de cette guerre, parce que il est d'origine, sa famille est d'origine prussienne, mais lui, il sert, puisqu'il vit en Autriche, dans l'armée autrichienne, et il voit sur le champ de bataille un de ses cousins tué par un Autrichien, évidemment, puisque son cousin est prussien. Donc, on a là une sorte de guerre fratricide, hein, qui est mise en avant, hein, cet aspect fratricide qui est mis en avant par Bertha von Suttner. Et après, donc, le comble de l'absurdité, c'est la mort. Mais je ne sais pas si on a le droit de...
Peut-être qu'on ne va pas complètement spoiler pour nos auditeurs la fin de Bas les armes, mais avant d'accueillir un nouvel invité pour parler de ces traductions, en un mot, quelle est la postérité de ce livre d'Iva van Nieuwde, Bas les armes, aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore lu en Autriche et en Allemagne?
Oui, je crois. Bon, c'est pas, disons... Du point de vue strictement littéraire, c'est pas un très très grand chef-d'œuvre. Hein, vous avez parlé de Tolstoï, Bertha von Suttner était en contact aussi avec Zola. Il faut bien dire à nos auditeurs, Bas les armes, c'est ni Guerre et paix, ni La débâcle. Hein, du point de vue strictement littéraire, du point de la force épique. Hein. Mais c'est un roman qui doit surtout servir à la réflexion sur la paix. La paix et la guerre, pas la guerre et la paix. Et de ce point de vue-là, hein, je pense qu'il est toujours lu, il est toujours d'actualité, surtout. Hein. Et Bertha von Suttner a répété qu'elle a voulu écrire un roman, donc ce roman, Bas les armes, justement parce que ça lui semblait le meilleur moyen d'atteindre un grand public. Et d'inciter un grand public à réfléchir sur ces questions.
France Culture, Avoir raison avec Bertha von Suttner, Marco Loridon.
On est avec vous, Karl Ziegler, et on reçoit tout de suite Peter van den Dungen, un nouvel invité. Bonjour Peter van den Dungen.
Bonjour.
Nous allons faire avec vous un petit focus sur les traductions de Bas les armes que vous avez étudiées, puisque vous êtes historien et vous vous êtes beaucoup intéressé à l'histoire du pacifisme. Avez-vous vu dans les journaux la lettre que Tolstoï m'a adressée après la lecture de la version russe de Waffen Nieder? Il est regrettable que la traduction française dont je vous avais envoyé les premières livraisons a été arrêtée. Je ne sais pour quel motif. L'éditeur ne donne plus signe de vie. Je crois que la circulation de l'ouvrage en langue française aurait gagné main prosélyte à la cause. Les membres de la société viennoise sont presque tous recrutés parmi les lecteurs du livre. Je vous serre les deux mains et vous prie de m'écrire. Alors, Peter van den Dungen, Bertha von Suttner écrit ces mots à son ami Alfred Nobel en 1891. Le livre « Les armes » est alors sorti depuis 2 ans. Quelles ont été ses premières traductions ?
À cet égard, il est intéressant de noter ce qu'Alfred Nobel écrit à Bertha von Suttner en avril de l'année antérieure, après avoir achevé la lecture de son admirable chef-d'œuvre, comme il dit. Il écrit, et je cite, « On dit qu'il y a 2000 langues, ce serait 1999 de trop, mais certes, il n'y a pas une dans laquelle votre délicieux ouvrage ne devrait être traduit, lu et médité. » Fin de la citation. Au début des années 1890, le roman est traduit dans une douzaine de langues européennes. Premièrement, en hollandais et en langue scandinave, danois, suédois, norvégien et en russe. Jusqu'à 1908, le roman est publié par 7 différents éditeurs russes. Et pour chaque édition, il y a plusieurs impressions. Il est aussi traduit dans d'autres langues slaves, comme le tchèque et le polonais. Il y a 2 traductions en anglais en 1892, « Lay down your arms ». Et aussi une traduction non autorisée aux États-Unis, « Ground Arms ». Aussi des traductions en italien et espagnol. De nos jours, le livre a été traduit récemment et pour la première fois en langue géorgienne, ainsi qu'en japonais. Il y a aussi des traductions nouvelles en tchèque et hollandais.
Mais alors revenons à la première version française. Elle a été en fait publiée en Belgique. Sous quelle forme ?
Oui, c'est vrai. Le roman est publié comme feuilleton dans le journal quotidien bruxellois Indépendance belge. Ses livraisons paraissent pendant la période de janvier à mai 1897. 2 ans auparavant, Bertha von Suttner avait proposé à Gaston Mosch cette publication dont les droits d'auteur seraient cédés au Bureau international de la paix qui réside alors à Berne et plus tard à Genève. Ne recevant pas de réponse, elle demande à Henri Lafontaine, fameux pacifiste et sénateur belge, d'appuyer cette idée, lettre de décembre 1895. Il semble, mais on n'est pas certain, que cette même traduction, parue en livraison dans le journal belge, a été utilisée par l'éditeur du livre « Bas les armes », qui enfin voit le jour en 1899.
Avec donc une préface de Gaston Mosch que vous avez évoquée, qui était-il ce Gaston Mosch ?
Gaston Mosch est un personnage fort intéressant, capitaine d'artillerie dans l'armée française. Il rédige plusieurs articles techniques dans la revue d'artillerie. Mais en 1893, il présente sa démission de l'armée après des rencontres avec des pacifistes dont les arguments ont produit une forte impression sur lui. D'origine alsacienne, il écrit un des livres quasi pacifistes les plus importants des années 1890 sur la question d'Alsace-Lorraine, où il propose une solution politique plutôt que militaire. Il devient rédacteur en chef de l'Indépendance belge, quotidien qui était sympathique envers le mouvement pacifiste. Mosch était aussi chef de cabinet du prince Albert Ier de Monaco et l'a convaincu de créer ce qui était vraiment sans pareil, un institut international de la paix dont il est nommé président. Gaston Mosch est nominé plusieurs fois pour le prix Nobel de la paix dans les années 1910. De son côté, il avait proposé Bertha von Suttner pour le prix en 1904 et 1905, l'année où elle l'a enfin reçu. Mais il n'était pas pacifiste absolu et quand la Première Guerre mondiale a commencé, Mosch a rejoint l'armée.
Alors, dans sa préface, il fait l'apologie d'un autre ouvrage de von Suttner, Das Maschinenzeitalter, L'âge des machines. Pourquoi cet ouvrage n'a, lui, jamais été traduit en français ?
C'est difficile à dire. Si je ne me trompe pas, ce livre important, L'âge des machines, n'a jamais été traduit en aucune langue. En revanche, ce livre, publié pour la première fois en 1899, comme dit Waffen-Eder, a connu au moins deux éditions révisées, publiées en 1891 et 1899. Pour les deux premières éditions, Bertha von Suttner avait choisi de cacher son nom et d'employer le pseudonyme Jemand, quelqu'un. Elle craignait, avec raison, qu'un tel livre, avec des réflexions critiques sur la société de ce temps, soit ignoré si l'auteur était une femme. Le livre a été recensé très favorablement et des écrivains renommés ont été suggérés pour ce mystérieux Jemand.
Est-ce qu'il y a d'autres ouvrages non traduits de Bertha von Suttner qui, selon vous, mériteraient de l'être ?
Il y a surtout ses mémoires, publiées en allemand en 1909, Mémoiren. On en connaît seulement une traduction en anglais, datant de 1910. Cette dernière a été publiée en deux volumes sous le titre Memoirs of Bertha von Suttner, avec le sous-titre significatif The Records of an Eventful Life, témoignage d'une vie mouvementée. Ce livre est non seulement la source principale pour la biographie de son auteur, mais également une source de premier ordre pour l'histoire du mouvement de la paix internationale, pour la période d'un quart de siècle qui commence avec la publication de son roman en 1899 et se termine avec la mort de son auteur en juin 1914, quelques semaines avant le début de la Grande Guerre. Ses mémoires sont remplies des informations touchant la France et les amis et collègues français et françaises de Bertha von Suttner, c'est-à-dire les pionniers français du mouvement de la paix comme Frédéric Passy, Paul-Henri d'Éternel de Constant, Léon Bourgeois et Charles Richet, et sont tous des lauréats du prix Nobel.
Alors finalement, il n'y aura eu que Balaisarme qui aura connu un destin international.
Très peu d'ouvrages de Bertha von Suttner ont été traduits, mais une exception rare concerne un petit mais important livre qui porte le titre « Armement et surarmement ». Publié en 1910, c'est la traduction de « Rüstung und Überrüstung », publié à Berlin un an plus tôt. Pour autant que je sache, c'est en français uniquement que ce livre a été traduit. Je crois que cette expression très appropriée de « surarmement » était introduite ici par von Suttner. À combien plus forte raison cette expression s'applique à nos jours.
Merci beaucoup, Peter van den Dungen.
Merci, Margot, merci.
Et merci beaucoup, Karl Ziegler, qui était avec nous depuis le début de cette émission en duplex de Tours. Je remercie également l'équipe technique à Tours de nous avoir rendu ce duplex possible. On se retrouve demain pour parler de l'action militante de Bertha von Suttner au-delà de ses écrits avec Jean-Paul Vienne et Julie Demel. Merci à Henri Leblanc qui m'a aidé à préparer cette émission, à Olivier Bétard pour la réalisation et à Élise Leu pour la technique.